15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. Dans Sans Rendez-vous, on parle de tous les sujets, on n'a aucun tabou. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous le savez, avec le docteur Jimmy Mohamed, parce qu'il est là à mes côtés, on parle de tout, on n'a peur de rien. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à votre posture. Êtes-vous certain d'être bien assis quand vous travaillez, par exemple, vous vous baissez correctement? Eh bien, avec notre invité, Olivier Girard, ergonome et posturologue, nous verrons que bien se tenir, ça s'apprend. Il nous donnera quelques exercices pratiques et tout ça, ça devrait vous intéresser car plus de 80% de la population active a mal au dos, à la nuque, aux épaules. Promis, dans cette émission, on va vous soulager. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des bébés secoués, un acte de maltraitance qui serait en augmentation en France et qui peut handicaper des enfants pour toute la vie. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler du défi de janvier, le fameux Dry January, un mois durant lequel certains d'entre vous ont peut-être décidé de faire une pause avec l'alcool. J'en fais partie et on est à la moitié de cette pause alcool. On fera le point. Alors, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces couples qui ont l'envie de faire venir un troisième partenaire titille. Catherine Blanc nous éclairera sur ses pratiques sexuelles.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Marina, 43 ans.
Bonjour docteur Mohamed, bonjour Mélanie. Vous avez fait une émission l'année dernière sur les cosmétiques maison. Vous aviez donné une recette de déo que j'ai vraiment bien notée. Je voulais savoir en fait si ça existait au niveau des démaquillants, les démaquillants maison du coup. Voilà, merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on a fait récemment une émission sur les cosmétiques. Elle disait l'année dernière, je me dis l'année dernière, oui c'est vrai, on est déjà en 2020,
déjà
mais c'était
arrive.
Pas loin en fait. Un sujet assez tendance, les cosmétiques maison, il faut dire, parce qu'en ce moment on se méfie de plus en plus des produits, y compris ceux qu'on met sur notre peau, les produits de beauté. Et donc pour répondre à cette question, étant donné que vous Jimmy, vous n'étiez pas tout à fait au point sur le dosage précis des ingrédients, eh bien on a posé la question de cette recette de démaquillant à une spécialiste des cosmétiques maison. C'est Pauline Dehec, on l'écoute.
Ma recette pour un démaquillant maison, je vais à la fois mélanger une huile végétale, donc particulièrement celle de noisette qui est une huile relativement sèche qui va permettre de solubiliser tout maquillage, et puis un hydrolat, donc celui de lavande fine, on appelle ça aussi eau florale. Et donc dans un flacon, on mélange 25 ml d'huile de noisette bio, 25 ml d'hydrolat de lavande fine bio, et on rajoute un petit conservateur naturel qui est l'extrait de pépins de pamplemousse. Et donc on ajoute 8 gouttes de cet extrait. Ça va nous faire une eau démaquillante dite double face, biphasée, qu'on secoue avant chaque utilisation. L'huile permet de démaquiller et l'hydrolat permet de purifier, d'assainir, de tonifier le visage et également de resserrer les pores. Voilà, ça démaquille tout, même le maquillage waterproof finalement. Et 100% naturel, 100% bio.
C'était donc Pauline Dehec, spécialiste en cosmétique maison. Elle a créé un concept d'atelier boutique qui s'appelle Mademoiselle Biloba, où l'on trouve évidemment les ingrédients si besoin pour fabriquer ses produits, pour chouchouter son corps au naturel. Alors Jimmy, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Vous avez peut-être, vous, une recette personnelle de démaquillant?
Oui, faites comme moi, ne vous maquillez pas, vous n'aurez pas de problème de démaquillage, c'est aussi simple que ça.
Voilà. C'était la conclusion du jour, merci Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est Daniela, 34 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce que j'ai une petite question. Ma petite fille de 2 ans adore le saucisson et j'aimerais savoir si c'est si mauvais que ça pour la santé, la charcuterie pour les enfants. Et je me dis que de toute façon, ça ne va pas la tuer.
Jimmy m'a confié finalement que quand même il se maquillait un peu de temps en temps parce qu'il passe à la télé et qu'il n'utilisait pas de lingette parce que c'est pas écologique et qu'il préférait le petit coton démaquillant,
voilà,
avec le produit.
Exactement.
Bon, très
c'est
bien.
Dit.
Jimmy, on va parler quand même de la question de Daniela. Donc, une question nutrition des bébés. Je crois qu'il y a un point sur lequel, bon, je peux m'avancer toute seule. La charcuterie chez les bébés, chez les petits-enfants, bon, même chez tout le monde, c'est pas tout le temps, c'est pas quand même hyper recommandé. Hein.
Oui, ça n'a strictement aucun intérêt sur le plan nutritionnel, que ce soit le saucisson, le pâté, le jambon sec, les rillettes. Tout ce qui est charcuterie pour les enfants, il faut essayer de l'introduire le plus tard possible. Bah, c'est simple, c'est trop salé, trop gras, non seulement pour les adultes, alors imaginez chez les enfants. Et puis en plus de ça, la fabrication industrielle fait que c'est souvent plein de nitrites, des agents de conservation qui empêchent le développement de bactéries, mais qui sont pointés du doigt par pas mal d'experts pour leur potentiel cancérigène, oui, notamment sur le cancer colorectal, lorsqu'on en consomme trop. Donc pour les bébés, il faut vraiment les introduire le plus tard possible, le moins souvent possible.
Alors le plus tard possible quand même, ça veut dire quoi? Là cette maman, elle dit que sa petite fille, elle a 2 ans je crois. Une petite tranche de saucisson de temps en temps, ça ne va pas la tuer quand même.
Oui,
hein,
pourquoi pas 2 ans? Et certains experts disent qu'il faut débuter jamais avant 18 mois.
Voilà, donc on n'en est pas loin. Donc 2 ans, ça va.
Et à ce moment-là, lorsqu'on l'introduit, il faut que ce soit avec modération. Avant 3 ans, une fois tous les 15 jours au maximum. Mm-hmm. Et après 4 ans, une fois par semaine au maximum. Donc aucun intérêt nutritionnel, ça peut être un aliment plaisir et on s'arrête là.
Le jambon blanc quand même, je crois que c'est un peu particulier, le jambon cuit. Là, c'est considéré comme de la charcuterie, mais les nutritionnistes, les pédiatres nous conseillent de le faire dans diversification alimentaire. Ça
Exactement.
Fait partie des viandes, des protéines qu'on introduit. Donc ça va par contre.
C'est mieux parce que le jambon blanc, jambon cuit, la part de lipides et en graisse, elle est plus faible. On a moins de matière grasse, on en a environ à 3%.
Oui,
donc finalement, c'est peu. Donc on peut en l'utiliser. Attention, effectivement, ceux dans le supermarché peuvent contenir des nitrites, donc quitte à en choisir, prenez ceux qui en contiennent
il y en a maintenant,
le
c'est
moins
vrai.
Possible.
C'est écrit sur l'emballage en
D'autant
général.
D'autant plus qu'on en donne aux enfants, essayer de privilégier peut-être la charcuterie du coin. Les enfants ne mangent pas beaucoup, donc peut-être un peu plus de qualité et moins de quantité.
Et puis si on est adepte de l'apéro, effectivement, de temps en temps, on peut aussi faire des apéros sans charcuterie.
Hein, exactement.
De tomates cerises.
Tomates cerises, bâtonnets de concombre, céleri, bouquets de chou-fleur, c'est pas mal. Les olives, attention aux noyaux. Éviter les cacahuètes, c'est souvent les accidents, les enfants font des fausses routes. Donc on peut remplacer la charcuterie par des légumes.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme dit Daniela qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un grave problème, le drame des bébés secoués. Europe 1 vous le révélait hier, le nombre de cas serait en augmentation. Jimmy va nous parler des dégâts médicaux sur ses enfants. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, Olivier Girard, qui va tout nous dire sur l'art de la posture, l'art de bien se tenir pour éviter certaines douleurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, Olivier Girard, qui va nous apprendre comment bien nous tenir au quotidien, comment bien s'asseoir au bureau par exemple pour éviter les douleurs de dos ou de nuque, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de quelque chose de grave, mais qu'il est nécessaire d'évoquer, les bébés secoués. Europe 1 le révélait hier en exclusivité, le nombre de dossiers de bébés secoués au fonds de garantie a augmenté de 25% en 2019. C'est dramatique, mais rappelez-nous d'abord ce que c'est vraiment ce syndrome.
Alors le syndrome du bébé secoué, c'est le terme utilisé pour décrire les lésions au niveau du cerveau qui résultent d'un traumatisme crânien intentionnel qui peut se produire lorsqu'un bébé est lancé, bousculé, tiré ou secoué. La tête d'un bébé, notamment celle des très jeunes nourrissons, elle est plutôt grosse par rapport au reste de son corps et les muscles de son cou ne sont pas assez forts pour la soutenir. Ce qui veut donc dire que tout mouvement de la tête, violent, peut entraîner un effet de coup de fouet. Et chez les bébés, le cerveau étant en développement, il est plus fragile et plus sensible aux blessures et aux lésions graves que celui d'un adulte.
Et comment on explique ces lésions cérébrales graves juste en secouant? Parfois, c'est même pas en secouant très fort, hein, je crois.
Exactement. En fait, les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau sont plutôt très fragiles et se déchirent très facilement. Et lorsqu'ils se déchirent à l'occasion d'un bébé qui serait secoué, eh bien, il y a du sang qui s'accumule dans un petit espace au niveau
hématome,
du cerveau,
hein, c'est ça,
un hématome, qui exerce une pression sur le cerveau et au niveau des yeux. Et parfois, les mouvements brusques peuvent causer un décollement de rétine et mener à la cécité. Donc, même une fois peut suffire.
Et justement, les conséquences, bon là, vous venez de parler de cécité, c'est déjà grave, mais ça peut être encore plus dramatique que ça. Hein.
Exactement. Et alors, comme j'ai dit, j'insiste, une seule fois suffit pour entraîner de graves lésions. Plus de 10% des bébés secoués meurent des suites d'un traumatisme crânien infligé et 3/4 des enfants qui survivent gardent des séquelles à vie. C'est plusieurs centaines d'enfants chaque année.
Énorme.
Et ça touche plutôt des nourrissons de moins de 1 an et plutôt des garçons.
Alors comment on peut prévenir ce syndrome? Parce qu'on veut essayer de faire de la prévention dans cette émission, c'est important.
Exactement, c'est le but. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les bébés ne savent pas communiquer autrement qu'en pleurant. C'est leur mode d'expression. Alors évidemment, lorsque vous avez changé le bébé, donc il est propre, il a mangé, il a fait son rôle et qu'il continue de pleurer, c'est qu'il a un besoin. Et il faut essayer de comprendre quel est ce besoin. Et parfois, il faut reconnaître, on est là pour faire de la pédagogie, expliquer aux gens qu'il n'y a pas de papa ou de maman parfait et qu'on peut être dépassé, ne pas comprendre,
bien
être
sûr.
Fatigué, parce que parfois les
ça
nuits sont difficiles.
Ça nous arrive à nous aussi, hein, Jimmy,
exactement.
On se le disait avant l'émission.
On
peut être exaspéré,
pas.
Fatigué, épuisé.
Parfois on est seul, on n'a pas de tissu familial, on n'a pas son conjoint qui peut être présent ou sa conjointe. Et à ce moment-là, on peut avoir envie de le secouer, même de façon involontaire. Donc,
enfin,
si
arrête
un moment,
de pleurer, c'est ça.
Exactement.
C'est,
vous craquez,
plus, hein.
Vous n'en pouvez plus. Il y a une chose à faire, c'est de poser le bébé dans un endroit calme, dans la chambre. Vous le laissez, il ne va rien se passer, il va pleurer.
Dans le lit,
et vous,
il est
vous faites
en sécurité,
autre chose.
Il n'y a aucun problème.
Vous allez prendre une douche, vous écoutez de la musique, vous essayez de souffler, vous appelez un ami, vous appelez des parents. Et à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro pour éviter d'en arriver là. On ne parle pas simplement que des parents maltraitants qui vont vouloir faire des sévices à leurs enfants qui seraient un peu tordus, si on peut dire des choses comme ça. Mais c'est pour dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, soyez prudents. N'hésitez pas à demander du soutien. Si vous venez d'accoucher, demandez à des amis de venir faire du ménage plutôt que d'offrir des bodys qui ne servent strictement à rien. Un peu de cuisine, essayez de vous aérer l'esprit et n'hésitez pas à demander de l'aide, pédiatre, médecin, sage-femme, psychologue si besoin. Et quand vous n'en pouvez plus, laissez l'enfant de côté, faites une pause et on voit ensuite.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Olivier Girard, il est ergonome et posturologue. Il est l'auteur du livre « Plein le dos, la manuel de la posture » publié aux éditions Favre.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Olivier Girard.
Bonjour à vous tous.
Alors, je suis sûre que nos auditeurs attendent vos solutions avec impatience pour en finir avec les douleurs, je l'ai dit, de dos, d'épaule, de nuque, de genoux. On a souvent mal partout parce que c'est un constat sans appel. Plus de 80% de la population active a mal quelque part, hein, c'est ça, de ce type de douleur-là en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de mal quelque part. Il y a une étude québécoise qui est sortie, je crois, la semaine dernière, qui parlait de chiffres plutôt autour de 30%. Et ces 30%-là, ils sont définis comme 30% de gens qui ont été empêchés de faire leurs activités normales du fait de la douleur. Donc, vous voyez, c'est la différence entre avoir mal et avoir très mal. Mmh. Avoir mal, c'est l'affaire de monsieur tout le monde.
C'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, finalement.
Exactement.
Les TMS, on en parle de plus en plus, des choses liées parfois au travail, hein, c'est ça?
Alors, les troubles musculo-squelettiques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des troubles de l'accumulation. L'accumulation, c'est quoi? C'est quand vous en faites avec votre corps plus que ce qu'il peut supporter. Vous lui imposez une charge, localement ou globalement, qui est supérieure à sa capacité, et à ce moment-là, bah, le verre déborde.
Jimmy?
Médicamenteux.
Ah, petit micro, allez-y.
Pardon, vous ne remettez pas en cause les traitements médicamenteux, mais en revanche, peut-être que si on comprenait mieux notre corps, un peu plus d'ergonomie, de meilleure posture, on aurait moins de douleur.
Exactement. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que, pardonnez-moi si j'ai quelques inexactitudes, quelques imprécisions, mais je crois que le paradigme médical traditionnel, hein, le paradigme interventionniste, il est très bien adapté à ce qui se passe une fois à l'accident, parce que les causes ont disparu. Mais si, du fait de vos habitudes, vous entretenez le problème au quotidien, ben, il ne suffit pas de régler les symptômes, il faut aussi s'attaquer aux causes. Et c'est ça mon métier. Mon métier, c'est d'aller travailler la cause.
Alors Jimmy se tient très mal, on en parlera tout à l'heure d'Olivier Girard. On ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être mal à la nuque, aux épaules, au dos. Cette émission va vous passionner, peut-être même vous aider. On va vous détailler un programme, des exercices qui vont vous apprendre à mieux vous tenir pour éviter les douleurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Olivier Girard, ergonome et posturologue, avec qui nous allons apprendre à avoir une meilleure conscience de notre corps, à nous tenir mieux pour éviter certaines douleurs. Alors Olivier, dans votre livre, c'est un programme en fait. En 3 semaines, vous nous apprenez à aller mieux. En 3 mois, à vraiment bien nous tenir. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il faut d'abord apprendre à comprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire comment fonctionnent nos muscles, nos articulations, pour éviter les douleurs. Mais ça prend quand même du temps. On ne peut pas l'apprendre en 2 minutes, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le livre, il se situe un peu en contre par rapport à une approche un petit peu trop courante, à mon sens, qui est que puisqu'on parle de troubles cumulatifs, bah, les causes, c'est un peu tout, et puis les symptômes, c'est un peu tout. Donc, quand vous écoutez une conférence sur les troubles musculo-squelettiques, on vous dit c'est par exemple l'hernie, par exemple la tendinite, par exemple. Donc, c'est par exemple tout. Puis, c'est dû par exemple au stress, par exemple aux postures, par exemple au port de charge. Donc, c'est dû par exemple à tout. Et si c'est un peu tout causé par un peu tout, bah, au final, vous n'y voyez pas clair.
Oui, bien sûr.
Donc, l'idée du livre, elle est vraiment d'essayer de développer une structure intellectuelle chez le lecteur qui comprenne comment le corps fonctionne, les grandes règles du fonctionnement de notre système qu'on appelle musculo-squelettique. Et si vous avez compris ça, vous allez être capable de l'utiliser dans toutes vos activités quotidiennes, professionnelles ou privées.
Alors, apprendre à bien se tenir, est-ce qu'il y a besoin de matériel, par exemple? Enfin, je sais pas, il faut que j'achète des choses chez moi là, pour suivre votre programme?
Pas particulièrement. La méthode Mensendik que j'ai apprise aux Pays-Bas, c'est une méthode qui se caractérise par le fait qu'elle utilise la gravité comme outil principal. Pour restaurer la conscience corporelle, c'est sûr qu'un miroir, c'est assez utile. Mais vous savez, si vous fermez les volets à l'extérieur de chez vous et puis que vous allumez la lumière à l'intérieur, vous avez un miroir dans votre baie vitrée.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Il n'y a même pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il faut beaucoup de volonté, par contre. Et puis, à la maison, j'allais dire, quelques coussins vous éviteront de changer votre canapé.
Jimmy.
Et d'ailleurs, miroir et coussin, pourquoi est-ce qu'on en a besoin?
Le miroir, il va servir pour travailler sur si vous voulez, avoir un feedback visuel en plus de ce qu'on appelle un feedback proprioceptif et éventuellement le toucher. C'est-à-dire typiquement, pour sentir la forme de votre dos, ben, vous sentez ce que les muscles vous racontent, si je peux dire. Vous pouvez mettre la main pour voir la forme du dos et puis vous pouvez utiliser vos yeux. Et la multiplication de ces canaux d'information permet la reprogrammation du cerveau, simplement. Hein ? Le coussin, c'est par rapport à la stabilisation du bassin. On va voir ça tout à l'heure, mais c'est essentiel en matière de posture assise.
Alors, avant de passer aux exercices, vous commencez dans votre ouvrage par expliquer que, bon, on travaille tous beaucoup assis. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent assis derrière un bureau, par exemple. Et ça, déjà, être resté assis trop longtemps, c'est pas bon. La règle de base, pour pas avoir mal, c'est de se lever tous les 30 minutes, je crois.
Oui, on pourrait... Ça, c'est la règle un petit peu stricte. C'est-à-dire que comme le dos a tendance à se comprimer au bout de 30 minutes, ben, pour éviter ça, il suffit de se lever toutes les 30 minutes. Maintenant, quand vous êtes sur l'autoroute ou quoi, ce n'est pas faisable.
Eh oui.
Ou difficilement en tout cas.
Ça donc, l'idée, c'est de dire, à peu près,
soit tu te lèves toutes les demi-heures et puis tu n'as pas compressé, tout va bien, continue ta vie. Soit tu te lèves moins que toutes les demi-heures et à ce moment-là, il faut que tu rattrapes le coup, c'est-à-dire que tu décompresses une fois que tu te lèves.
Jimmy ?
D'accord. Et pour comprendre comment notre corps fonctionne, vous prenez l'exemple d'un robinet d'eau mal utilisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, en fait, le modèle que j'utilise, il a trois composants. Le premier composant, c'est un verre. Le verre, c'est votre coude, c'est votre dos, c'est votre corps en entier, peu importe. C'est ce qui a une certaine capacité, une certaine résistance. Le robinet, c'est vos activités de la vie quotidienne. C'est la combinaison de ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps et dans quel état psychologique. C'est ces quatre-là ensemble. Le robinet, c'est ce qui charge vos tissus. Et puis le troisième paramètre, c'est une paille. C'est tout ce que vous faites pour vider le verre. Et en fait, le modèle, c'est pour ça que c'est fait pour parler à monsieur, madame, tout le monde. On dit, le verre, il va déborder si tu mets par le robinet plus que tu ne sors par la paille. Donc en fait, les maux de dos, c'est facile. Si tu utilises ton dos plus que tu ne le reposes, un jour ou l'autre, il fera mal.
Olivier Girard, on va continuer cet entretien sur l'art de la posture dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on vous donne plein d'exercices très pratiques pour en finir avec le mal de dos, les douleurs à la nuque ou encore les épaules douloureuses. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Olivier Girard, ergonome et posturologue. Alors Olivier, vous dites que pour bien se tenir, il y a trois grandes règles finalement pour avoir une bonne posture. Avoir le dos plat, la nuque détendue et puis la posture, ça se construit de bas en haut. Expliquez-nous.
Alors je commence par la première. Le dos plat, c'est un concept qui va faire sauter la moitié de l'audience de leur chaise parce que physiologiquement, le dos, il ne peut pas être plat.
Jamais
clair.
Plat, ouais.
Il n'est jamais plat. Et ce n'est pas l'objectif. C'est un concept pédagogique, pas physiologique. Si vous pensez dos plat, alors vous allez créer quelque chose qui est entre rond et creux, c'est-à-dire aller chercher de la posture neutre.
Au moment où vous
le
dites, vous voyez, c'est ça.
Vous voyez, ça marche.
Alors que donc, Jimmy est avachi sur sa table, comme d'habitude. Donc dos plat, c'est une idée, c'est un concept.
En fait, c'est aussi quelque chose que vous pouvez palper dans le bas du dos. Le bas du dos va être plutôt plat, ni creux ni rond. La deuxième chose, la nuque relaxe, c'est quoi ? C'est dire, vous n'aurez jamais de problème si votre nuque est trop relaxe.
C'est quoi une nuque relaxe ? J'arrive pas trop à imaginer, moi, je ne sais pas.
C'est probable. c'est l'intérêt de la règle 3. La règle 3 vous explique que je ne peux pas répondre à cette question-là si je n'ai pas été regarder ce qu'il y avait en dessous.
Ah oui, pardon, je n'ai pas regardé sous ma jupe, d'ailleurs j'ai un pantalon. Oui, c'est dire comment sont positionnés mes pieds, hein, c'est ça.
Alors, et puis, pour être plus concret, si vous êtes avachi dans votre bassin, ben, comme vous êtes avachi, le milieu du dos part vers l'arrière. Et pour compenser, si je mets du poids derrière, il y a du poids qui va devant. La tête part devant. Mmh. Et ça va tendre la nuque. Donc, si vous voulez, pour répondre à ce type de contraction de nuque, pardon, je suis obligé de vous remettre bien sur votre bassin.
Bon,
ça, c'est la règle 3.
Alors, remettez-moi bien sur mon bassin. Enfin, surtout Jimmy, parce que moi, je crois que je me tiens mieux que lui quand même. Vous allez me dire d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Mais la bonne position quand on est assis, il y a beaucoup de gens qui travaillent assis. Je crois qu'en moyenne, c'est 10 à 14 heures qu'on passe assis, que ce soit au travail, en voiture, à table. Enfin, on est assis une bonne partie de la journée, la majorité des gens.
Fonction des professions, allez pas dire ça à un vendeur ou
non,
un coiffeur.
Bien sûr. Mais à être bien assis.
Alors, si on veut faire la version. Quand je fais assis en conférence, pour être très clair avec vous, ça me prend 20 minutes de construire la posture.
On
va le faire en cours. La version résumée, c'est de dire le boulot de vos pieds, c'est d'être sur le sol, de sorte à ce qu'il vous, à ce que, en prenant appui sur le sol, vous puissiez vous mettre au fond de la chaise, où votre bassin va être calé contre la partie inférieure du dossier qu'on appelle le support lombaire.
Oui, vous voyez, si je fais ça, je suis très loin du micro, donc
oui,
c'est pas possible
là,
pour mon travail.
Vous n'avez pas seulement le bassin qui est contre le dossier, vous avez aussi les épaules qui sont contre le dossier, et ça, c'est non. Il n'y a pas besoin d'avoir les épaules contre le dossier. Il y a besoin de stabiliser le bassin.
Ouais.
Et si le bassin est stable, c'est-à-dire votre ceinture, alors votre colonne vertébrale, elle grandit gentiment, très légèrement vers l'avant.
La
résultante de ça, c'est que vous n'avez pas votre fermoir du soutien-gorge contre le dossier.
Ah non, il ne touche pas, c'est vrai.
Exact.
Et ça, c'est bien.
Et ça, c'est bien.
Ah, j'ai la bonne position. Donc, ça commence par les pieds. Les pieds, les jambes, d'ailleurs, bien se tenir, bien être assis. Ça commence, vous dites, par le bas, on remonte. Moi, il y a une position que je vois beaucoup chez les hommes, dans le métro, par exemple. Ils sont assis, bon, droit ou pas droit, ça, c'est une autre question. Mais ils ont surtout les genoux grands ouverts. Parce que je crois que les pieds, c'est important, mais les genoux aussi. Les genoux grands ouverts, comme ça, ils gênent tout le monde, ils n'en ont rien à faire. Mon petit coup de gueule du jour contre les garçons dans le métro. C'est pas bon, hein. Mais les femmes non plus, les jambes serrées, c'est pas bon. C'est quoi la bonne position des genoux?
C'est vrai.
Des genoux, pardon.
Il faudrait demander à un anthropologue, mais je pense qu'il y a une fonction biologique derrière. Mais les hommes ont tendance à écarter les genoux quand ils sont assis. Les femmes ont tendance à serrer les genoux quand ils sont assis. Les hommes, ça va les avachir. Les femmes, ça va creuser. Donc en fait, l'idée, c'est de dire vos talons doivent être verticalement sous vos genoux, tant en avant-arrière que sur le côté. Ce que vous pouvez choisir, c'est d'avoir genoux et pieds un peu serrés ou un peu écarté.
Voilà, mais aligné,
verticalement.
Ça, c'est important. Jimmy ?
Donc, on a compris que l'assise était importante sur une chaise, mais est-ce qu'on a besoin de mettre des coussins ? Est-ce que les accoudoirs servent à quelque chose aussi ?
Alors, sur une vraie chaise, si je peux dire, ou une bonne chaise, en tout cas, qui vous donne un bon support lombaire, pas besoin d'un coussin. Le coussin, il va intervenir dès que la chaise est, par exemple, un petit peu trop profonde. Et là, on est typiquement dans la problématique du canapé.
Le canapé,
vous ne pouvez pas atteindre le dossier.
Souvent, exactement.
Et autant bas que profond sont deux facteurs d'avachissement du bassin. Ils se cumulent pour double avachir le bassin, si je peux dire.
On ne va pas changer le canapé tout de suite, donc les coussins.
Donc voilà, c'est ça. On va raccourcir la profondeur d'assise, en fait, en mettant des coussins, pour autant que les coussins soient suffisamment fermes quand même. S'ils s'écrasent sous votre poids, vous n'avez rien gagné. Donc ça, c'est le boulot des coussins. Vous avez fait un deuxième point dans votre
question. L'accoudoir, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose?
En fait,
j'en ai deux, mais je n'ai jamais mis ma main dessus.
C'est vrai. Quand vous vous tenez bien, ce que j'appelle dans le livre la posture du singe, il y a un muscle à l'intérieur, dans votre torse, ça s'appelle le grand dorsal, le latissimus dorsi en latin, qui est mobilisé. Et ce grand dorsal, il sert d'accoudoir interne, c'est-à-dire qu'il va s'accrocher juste sous vos bras. Et quand il est mobilisé, bah, il va faire le rôle d'un pilier pour le poids de vos bras, de sorte à déporter le poids sur toute la colonne dorsale, lombaire et les bassins.
Donc pas besoin d'accoudoir.
Donc vous avez un accoudoir interne quand vous vous tenez bien, et quand vous vous tenez mal, bah, l'accoudoir externe peut servir, mais s'il est trop haut, trop large, trop je sais pas quoi, et que vous en profitez pour vous tordre sur le côté, vous avez gagné autant que vous avez perdu, voire plus.
Pour ceux qui travaillent devant un ordinateur, je crois que le fait de travailler notamment sur un ordinateur portable, c'est particulièrement mauvais pour la nuque, hein, c'est ça, parce qu'on a tendance à baisser la tête tout le temps comme ça.
En fait, le risque pour la nuque, il est d'être fléchi plus que 20 degrés, ce qui vous emmène très rapidement dans les problématiques de laptop, d'ordinateur portable, de tablette et puis de téléphone portable. Aux Pays-Bas, quand j'y vivais, la loi considérait que travailler sur un ordinateur portable, c'était 3 fois plus risqué que travailler sur un ordinateur de bureau. C'est-à-dire que chaque minute sur votre ordinateur portable, vous coûte 3 minutes de votre crédit quotidien d'ordinateur de bureau.
Et pour les douleurs, en termes d'impact
nuque, TMS, etc. Par rapport au risque TMS. Si on extrapolait ça au smartphone, moi, la valeur repère que je donne pour le smartphone, c'est considère que smartphone-tablette, c'est un facteur de risque 6 à 8.
C'est-à-dire d'avoir mal par rapport à l'ordinateur classique.
C'est-à-dire que si tu bosses sur ta tablette uniquement, tu as 6 fois plus de chances d'avoir mal à la nuque que si tu bosses sur un ordinateur de bureau.
Jimmy ?
Et donc on évite ça sur le canapé, au lit, dans des positions un peu improbables.
Non, mais c'est ce que vous faites tous les jours.
C'est ce qu'on fait, c'est vrai. Le soir, quand on veut faire des mails, on est sur le canapé, la tête penchée en avant, les épaules.
C'est vrai que ça fait mal à la nuque, de toute façon, on a tous mal après.
C'est un geste à bannir.
Le 1, 3, 6 ou 8, peu importe, c'est vrai que c'est une considération à chaise équivalente, c'est-à-dire avec le support lombaire, machin, tralala. Maintenant, il faut être clair, qui utilise son téléphone portable sur une chaise avec un support lombaire bien assis? Comme vous avez dit, c'est sur le canapé, etc. Donc, 1-3-6, c'est la version politiquement correcte. La vraie version, c'est probablement 1-18-25. Probablement.
Et on fait quoi alors si on n'a qu'un portable? Par contre, on le met sur quelque chose?
C'est-à-dire qu'un portable, un ordinateur portable, c'est juste un ordinateur de bureau auquel on a attaché le clavier à l'écran. Donc, si vous voulez, vous prenez un clavier, une souris avec fil ou sans fil, peu importe, et puis vous mettez l'ordinateur portable sur quelques bouquins, il va donc vous servir d'écran, et à côté de ça, vous avez clavier-souris à leur place, c'est-à-dire juste sous vos doigts, de sorte à ne pas forcer sur la nuque quand vous allez les chercher.
Alors on a parlé de la position statique, pas mal, l'assise, notamment pour les gens qui travaillent derrière un bureau avec des ordinateurs. Parlons quand même un tout petit peu des positions en mouvement, on va dire. Quand on marche, vous dites qu'aussi, on ne marche pas comme il faut finalement, on n'a pas la bonne posture. C'est quoi les principaux problèmes de la marche qui peuvent nous engendrer des douleurs,
hein. Je crois que pour comprendre ça, il faut revenir à la posture debout. Le principal problème, autant quand on est assis, on a tendance à être dos rond, c'est-à-dire avachi dans le bassin, autant quand on est debout, on a tendance à être dos creux. Et ce dos creux, il est largement dû, si vous regardez un petit peu dans la rue autour de vous, au fait que les gens ont le bassin qui est trop en avant. C'est-à-dire que si vous collez un mur derrière eux, le mur va taper dans leurs épaules, dans leurs omoplates. Et vous le voyez dans le métro d'ailleurs, ils reposent leurs omoplates sur le mur ou sur les poteaux, pas le bassin. Et donc en fait, si vous imaginez quelqu'un qui se tient avec le bassin devant et les épaules derrière, bah c'est comme si quelqu'un le retenait dans le sac à dos ou dans le fermoir du soutien-gorge, alors que cette personne essaye d'aller vers l'avant. Et ça, c'est le premier problème de la marche. Ensuite, on pourrait citer le fait que...
Donc il faut penser à se redresser un petit peu en avant, quoi, à basculer le bassin en arrière, peut-être.
Alors, plutôt le reculer. Le reculer, c'est-à-dire le translater finalement vers l'arrière. Et une fois qu'il est translaté vers l'arrière, on peut parler de cette fameuse rétroversion qu'on apprend au yoga et au pilates, qui est l'aplatissement un petit peu du bas du dos.
Ça, c'est des exercices que vous proposez de rotation du bassin dans votre livre qui permettent d'apprendre à mieux se tenir debout. Jimmy ?
Un conseil pour ceux qui nous écoutent en voiture ou ceux qui passent beaucoup de temps en voiture ?
Le principe en voiture, c'est exactement comme sur une chaise. L'idée, c'est de caler votre bassin autant que possible. Les différences, c'est que vous êtes dans un espace plus contraint parce qu'il y a des pédales qui ne sont pas forcément à la bonne place, il y a une colonne de direction qui vous gêne éventuellement et il y a des accélérations latérales qui vous déstabilisent. Mais le principe, il est le même. Là, je dirais, le conseil le plus simple que je peux vous donner, c'est aller regarder sur mon site. J'ai fait une vidéo de réglage de siège de voiture. Le plus simple pour y aller, c'est vous taper oliviergirard.ch. Girard, c'est G-I-R-A-R-D. .ch comme la Suisse. Et là, quand vous
toutes
baladez un petit peu dans les vidéos, vous trouvez toutes les vidéos,
à bien se tenir
notamment
en toute situation. Juste un tout petit mot très rapide sur le sommeil. Quand on dort aussi, on se tient mal. Dormir sur le ventre, par exemple, c'est une catastrophe pour les douleurs, hein, c'est ça ?
Dormir sur le ventre, ça creuse le dos et ça tord la nuque. Parce que comme il faut respirer, vous posez sur votre joue, en fait, pour libérer les voies respiratoires. Et donc, vous êtes dos creux, nuque tordue.
La position idéale pour dormir, pour ne pas se faire mal, c'est quoi ?
Deux oreillers, un sous les genoux, et puis un, ou entre les genoux, et puis un sous la tête. Et puis, vous choisissez soit sur le côté, soit sur le dos. Les deux sont OK.
C'est ça qui fera le moins mal. Merci beaucoup, Olivier Girard, d'être venu sur notre plateau, nous donner quelques rudiments, quelques astuces pour bien nous tenir, adopter la meilleure posture, y compris quand on dort. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Plein le dos, le manuel de la posture, publié aux éditions Favre. Merci encore.
Merci Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un petit bilan à mi-parcours du Dry January, un mois de janvier sans alcool, pour faire simplement une pause, se poser quelques questions sur sa consommation habituelle. Ça fait jamais de mal à personne, on en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du défi de janvier, l'opération Dry January. Un mois pour faire une pause avec l'alcool pour ceux qui le souhaitent. Alors savez-vous quels sont les bénéfices, s'il y en a, d'un tel défi ? Et vous, tentez-vous ce challenge ? Justement, Benjamin Lévesque est parti sur le terrain faire la tournée des bars, comme on dit, dans les rues parisiennes. Et lui, bon, bien sûr, il est resté sobre, évidemment, mais visiblement, pas tous les gens qu'il a interrogés. On écoute son micro-trottoir.
C'est un mouvement qui a été lancé aux États-Unis et qui a du coup été mis en place en France, et c'est en fait de faire le mois de janvier sans alcool.
J'ai fait le Dry January parce qu'on m'a dit que c'était bon pour le foie. Et ça n'a pas marché longtemps, j'ai tenu, on est le combien ? On est le 9 ? J'ai tenu 9 jours et là je me suis dit que je faisais une petite parenthèse et que je reprenais après.
Moi je le fais pas parce que je trouve que c'est vraiment trop difficile d'arrêter. L'intention est très bonne et franchement je trouve que ça pourrait me faire du bien. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que je vois des amis, ben tous les prétextes sont bons pour prendre un verre.
C'est au-dessus de mes forces. Bah non, je peux pas passer une journée sans boire.
Là par exemple je suis en soirée et je suis sur un soda et pas sur un verre d'alcool. On le ressent en fait déjà au niveau du poids. J'ai perdu du poids moi depuis le début.
De prendre un Perrier quand les autres gens vont prendre un verre de vin, t'as l'impression de pas partager la même chose. C'est un peu bizarre.
Par contre, ce que je trouve être un bon compromis, c'est de le faire du lundi au vendredi. De ne pas boire la semaine et de se réserver un peu pour le week-end.
Alors Jimmy, on fait un bilan un petit peu du Dry January, on en a parlé dans son rendez-vous déjà, mais juste pour démarrer, peut-être rappelez-nous ce que c'est. C'est pas un défi qui vient des États-Unis, je crois, contrairement à ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir.
Exactement, ça nous vient de la Grande-Bretagne, ils le font là-bas depuis 2013, ça c'est au Canada, en Belgique, on appelle ça la tournée minérale et c'est en février. Alors c'est pas un défi pour les personnes dépendantes à l'alcool.
Pas du tout.
C'est juste pour faire un point sur sa consommation et voir si on dépasse les repères, 2 verres par jour et pas tous les jours, 10 par semaine, et il y a de nombreux bienfaits qui ont été démontrés.
Et les bienfaits, il y en a beaucoup de faire une pause avec l'alcool. Je vous parlerai des miens après parce que vous savez, j'aime bien les défis, donc je le fais ce défi de janvier. Mais pour faire un point sur les bénéfices prouvés de cette opération, on a été posé la question à un expert, le professeur Michel Reynaud. Il est président du fonds Action Addiction.
Il y a 3 types de bénéfices. Des bénéfices corporels. Des bénéfices corporels, c'est une peau plus saine, plus claire, une tension qui diminue, un sommeil qui est meilleur, une perte de poids de 1 à 2 kilos. C'est des petits avantages corporels, mais qui marquent une amélioration interne, notamment du foie. Et puis, a un intérêt social qui est d'analyser ses consommations et d'analyser le système dans lequel on vit. Il y a un autre élément tout à fait important qui est que à 6 mois, on s'est aperçu que ceux qui avaient suivi le Dry January consommaient moins. Ils étaient dans une moyenne de 3-4 verres et ils descendent à une moyenne de 2-3 verres par jour, qui est dans des normes à peu près dans les repères de consommation non problématiques.
Alors, on est à la moitié de ce mois de janvier sans alcool pour certains. Et déjà, les associations de Jimmy disent que c'est un succès, je crois, en France. Hein.
Exactement. Plus de 20 000 personnes inscrites sur le site du Dry January ou sur d'autres groupes ou sur la page Facebook qui est consacrée. Sur les réseaux sociaux, on peut se rendre compte que ça prend de l'ampleur, que l'expérience marche. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez tenté. Comment ça va, Mélanie?
Moi, ça va très bien, ça va nickel. Je dois avouer quand même que ce n'est pas tous les jours facile parce qu'on se rend compte en faisant cette pause avec l'alcool que finalement, les sollicitations, elles sont hyper nombreuses. On refuse des pots avec les collègues, des bonnes occasions à fêter. Et puis,
aujourd'hui, votre anniversaire,
voilà,
Mélanie.
Je dois l'avouer, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et je crois que ce sera la première fois de ma vie que ça va se faire sans une petite coupe de champagne. C'est un plaisir que j'ai l'habitude de faire ce jour-là. Là, aujourd'hui, non, ça sera plutôt au jus de pomme pétillant d'ailleurs. Je remercie Sabrina qui nous l'a envoyé, une auditrice fidèle, qu'on salue et qu'on remercie puisque Jimmy en profitera aussi. En tout cas, des bénéfices, j'en ai vu. Je dors mieux, je me sens plus en forme. C'est vrai que le lundi matin, on est plus en forme après avoir passé un week-end sans boire du tout. C'est pas que je consomme beaucoup d'habitude, mais en tout cas, sans alcool, on en ressent vraiment des bienfaits. Bref, je pense que cette pause alcool, l'année prochaine, je vais la refaire peut-être parce que ça fait pas de mal, franchement.
Plutôt un bon bilan, alors.
Voilà, vous, les gens que vous connaissez qui le font, vous disent tous pareil, j'ai l'impression. Hein,
oui,
vous en connaissez autour de vous, à part moi.
Effectivement, on va mieux, donc très bien. Et c'est vrai que vous êtes plus rayonnante. C'est peut-être aussi l'arrêt du tabac
merci.
Qui va avec.
Ah, c'est vrai, il y a les deux. Maintenant, je suis parfaite, c'est super. Merci beaucoup, Jimmy. Voilà pour le bilan.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ces couples que l'envie de faire venir un troisième partenaire titille. Catherine nous éclairera sur ses pratiques sexuelles. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. C'est la chronique sexo, la chronique que vous attendez souvent, beaucoup d'ailleurs, Jimmy le premier. Alors Catherine...
On ne sait pas pourquoi, c'est toujours Jimmy
c'est toujours
qui s'en prend.
Jimmy que ça tombe. Alors Jimmy, Catherine, pardon, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour quand même.
Bonjour à tous les deux.
Voilà, vous êtes ravis de voir Jimmy, j'imagine, qui est lui aussi est content de vous voir. Alors Catherine... On a une question aujourd'hui de David. David, il a 30 ans, je vous la lis. Je suis avec mon copain depuis 4 ans. Nous avons toujours été fidèles l'un envers l'autre, mais nous aimerions tester un plan à 3. Cela m'excite, mais j'angoisse un peu. Je suis extrêmement jaloux de nature. Comment faire pour que ça se passe bien? Vous avez des conseils, Catherine? Alors Catherine, bon là, il vous demande de tout plein de conseils. On va voir si vous pouvez lui répondre précisément. C'est quoi le but de faire éventuellement appel à une troisième personne quand on est en couple comme ça?
Eh bien, c'est évidemment faire jouer des fantasmes différents au lieu d'être dans un rapport de fusion et se perdre l'un dans l'autre. Tout d'un coup, en faisant intervenir un tiers, eh bien, c'est toute la difficulté de son propre positionnement, de son propre pouvoir, de la reconnaissance du pouvoir dans l'œil de l'autre ou au contraire la dangerosité dans laquelle nous nous trouvons dans le lien à l'autre qui vont être source de stimulation et d'excitation sexuelle.
Mais c'est pas parce que ça se passe mal entre eux, il dit que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et qu'a priori tout va bien. Hein,
non,
mais...
c'est juste un autre angle fantasmatique. Il faut bien comprendre que notre sexualité, elle est faite de fantasmes qui sont complètement tordus, les uns comme les autres.
Donc, on est tous tordus, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des fantasmes qui sont nés de nos relations les plus primitives, de nos relations à nos parents, à notre fratrie, aux enjeux des relations avec les uns et les autres, de la fusion, du partage avec l'autre, du risque d'être évincé, du risque d'affirmer son pouvoir. Donc en fait, tout ce qui s'est joué sur un champ absolument pas sexuel, ces éléments primitifs vont se rejouer dans le cadre de notre sexualité.
Jimmy ?
Mais c'est pas une façon détournée d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne ? Mais avec l'accord de son conjoint ou de sa conjointe.
Ouais, de tromper
aussi,
tranquillement.
Quoi. Oui, aussi, bien sûr. C'est une façon de demander l'autorisation de pouvoir faire quelque chose en dehors de l'autre. Encore une fois, comme je le disais, c'est une façon, par exemple, pour l'enfant, si je le remets dans le cadre de l'enfant, de se donner le droit d'aller aimer la maîtresse ou la nounou, mais avec l'autorisation de maman, puisque maman en a besoin elle aussi. Donc, c'est pouvoir ouvrir le champ par la triangularité, ouvrir le champ de la liberté, tout en veillant à la qualité de la relation initiale, garder pérenne en quelque sorte.
Bon, moi je suis assez ouverte en général, mais j'ai du mal à comprendre quand même comment on peut être excité éventuellement de voir son compagnon avec une autre personne. J'avoue que j'ai un peu du mal. Je sais pas.
Bien, l'excitation, elle est à deux niveaux. Elle est d'abord.
Ça fonctionne comment, ouais, c'est ça.
C'est déjà de voir ce qui se passe entre deux personnes. C'est rentrer dans une intimité, observer une intimité avec tout ce que cela provoque de surprise, de curiosité, de voyeurisme. Donc il y a vraiment le voyeurisme qui est satisfait dans ce cadre-là. Et puis il y a comment je vais pouvoir trouver ma place ou comment je vais pouvoir m'immiscer entre ces deux personnes pour jouer un rôle ou un peu de côté ou au contraire un rôle majeur dans cette relation duel que je viens briser par ma présence personnelle.
Jimmy ?
Et David dit qu'il est jaloux, donc ça risque d'être compliqué pour lui d'accepter de voir son partenaire avec quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr. Et donc, ça pose évidemment la question. Alors d'abord, parce qu'il est jaloux, on peut se dire qu'il y a peut-être de l'excitation à l'orée de cette douleur qu'il recherche, ça c'est une chose, et qu'il rejoue des choses de sa jalousie dans cette triangularité. Jalousie à l'égard de maman ou de papa ou à l'égard d'un membre de la fratrie, puisque c'est toujours la triangularité, c'est ce qui se joue entre moi, un de mes parents et l'autre parent, ou moi, un de mes parents et un enfant avec qui il m'a fallu partager ce parent. Donc déjà, c'est de cela dont il s'agit, source d'excitation pour lui. Et puis l'autre chose, c'est se demander pourquoi je veux absolument faire l'expérience de quelque chose dont je me dis que ce peut être douloureux. Quel est l'intérêt vraiment de toujours repousser les limites de nos relations et de la sécurité de nos relations, aller les mettre en danger pour mesurer peut-être à l'orée de ce danger combien nous nous aimons malgré tout. Et du coup, on utilise l'autre, le tiers, pour vérifier la qualité et la solidité du lien, mais avec tous les risques que cela comporte, bien évidemment.
Alors David, on en a compris, il a envie de tester le plus on est de fou, plus on rit. On verra bien si c'est effectivement si bien
si
que ça pour lui.
Si le rire n'est pas trop jaune.
Voilà, mais est-ce que c'est important dans ce genre de situation de fixer des règles ou pas ? Dire voilà, on a le droit de s'embrasser, on a le droit de faire ci, de faire ça.
Je crois que effectivement, si on s'adonne à ce genre d'action, il vaut mieux s'être donné un petit peu le cadre acceptable et non acceptable pour se sécuriser. Bien sûr, mais encore une fois, de toute façon, dans l'excitation, il y a des tas de choses qui peuvent évoluer, puisque arrive un tiers qui, lui, n'a pas nécessairement les mêmes règles du jeu. Parce qu'il a besoin d'exister, lui aussi.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré à la dyspraxie, avec notre invité, le pédopsychiatre Louis Vera.